VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Dakar, 14h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. Libye, au moins 7 personnes ont été tuées, une vingtaine d'autres blessées jeudi soir lors d'un attentat à la voiture piégée dans le centre de la ville de Benghazi, dans l'est du pays. La voiture a explosé près de l'hôtel Tibesti, sur une avenue commerciale où la vie nocturne est d'habitude animée au cours du mois sacré des jeunes musulmans du Ramadan. Pas de revendication de l'attentat jusqu'à présent, mais un responsable libyen a accusé les cellules terroristes dormantes qui viennent envoyer le message selon lequel la ville de Benghazi n'est pas sûre. Afrique de l'Ouest, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, passera la journée internationale des casques bleus mardi auprès des troupes de la MINUSMA, la mission onusienne au Mali. Cette mission est la plus coûteuse en vie humaine des opérations actuelles de maintien de la paix des Nations Unies. Jean-Roger Bion.
Dès son arrivée mardi, M. Guterres assistera à une cérémonie en mémoire des casques bleus tués au Mali. La MINUSMA, qui compte environ 12 500 militaires et policiers, a perdu au total plus de 160 casques bleus, dont une centaine dans des actes hostiles depuis son déploiement en 2013. Le séjour au Mali du secrétaire général se veut aussi une visite de solidarité pour le Ramadan, au cours duquel M. Guterres va jeûner, selon le communiqué de l'ONU. Alors que le Mali se prépare à une élection présidentielle à la fin du mois de juillet, il rencontrera le président Ibrahim Boubacar Keïta, candidat à sa réélection, le premier ministre Soumaïlou Boubey Maïga et d'autres responsables maliens. Au cours de sa visite de deux jours, le secrétaire général se rendra aussi dans plusieurs régions du pays pour y rencontrer des autorités locales, des membres de l'ONU ainsi que des représentants de communautés de femmes, de jeunes et de religieux. Antonio Guterres sera accompagné des secrétaires généraux adjoints pour le soutien logistique et les opérations de paix respectivement Atul Karé et Jean-Pierre Lacroix ainsi que la directrice de l'UNICEF, Henrietta Fore.
Épidémie d'Ebola en RDC, selon le tout dernier bilan publié par les autorités congolaises ce vendredi, 52 cas de fièvre hémorragique ont été enregistrés dans la province de l'Équateur, dans le nord-est du pays, depuis le début de l'épidémie le 8 mai dans la localité de Bikoro. Sur ces 52 cas, 31 sont confirmés, 13 probables et 8 suspects. Le nombre total des décès, 22 morts, soit moins que les 27 victimes annoncées précédemment. Une révision à la baisse qui s'explique, selon le ministère congolais de la Santé, par le fait que certains morts ont été au début faussement attribués à Ebola. Des cas qui se sont révélés négatifs aux analyses de laboratoire. De Bikoro, localité proche de la frontière du Congo-Brazzaville, la maladie s'est propagée à Mbandaka, chef-lieu de l'Équateur, une métropole de 1 200 000 habitants. Une campagne de vaccination ciblant le personnel soignant, les contacts des malades et les contacts de ces contacts est en cours depuis lundi. En début de semaine, 3 patients d'Ebola se sont échappés du camp d'isolement à Mbandaka pour aller prier sans demander l'avis de leur médecin. 2 de ces malades sont décédés depuis. Eddie Sango a joint le pasteur de l'église concernée, l'apôtre Élisée Ntoma. On l'écoute.
C'était vers 21h. On nous a amené un monsieur transporté sur un taxi moto. Il est entré dans l'église et nous avons prié pour son cas. Mais vers minuit, des policiers et des médecins sont arrivés et nous ont demandé comment le monsieur était à ce lieu alors qu'il était en quarantaine hospitalisé parce qu'atteint de la maladie à virus Ebola. Et nous avons répondu que sa femme, son fils et quelques autres membres de sa famille l'ont amené, disant qu'il était à l'hôpital depuis 2 mois et qu'il y a beaucoup souffert sans amélioration. Ils nous ont dit que c'était quelque chose de ténèbre et que ça nécessitait la prière. Nous l'avons dès lors relâché et au matin, les agents du service de santé sont venus prélever les identités de moi-même, de mes disciples et de tous les fidèles qui étaient à l'église, près de 70 personnes. Après cela, ils sont venus désinfecter les lieux, mais nous attendons car ils ont promis de venir pour faire le test de dépistage.
redécouvrir.
Quelles précautions avez-vous prises lors de la prière pour éviter tout contact ou toute contamination?
Nous ne savions pas que la personne était atteinte par la fièvre hémorragique d'Ebola. Ce sont les médecins qui sont venus nous prévenir que si nous voyons une personne avec des écoulements du nez, vomissant et faisant de la diarrhée sanguinolente, il s'agit de symptômes de la maladie à virus Ebola. Mais avant cela, nous ne savions rien de signe de cette maladie. Nous étions dans l'ignorance complète.
Qu'en est-il d'autres personnes sorties de l'isolement qui sont mortes? Les aviez-vous aussi reçues dans votre lieu de prière?
Le seul cas que je connais est celui du monsieur pour lequel nous avons prié. Tout le reste, je l'apprends à travers la radio, mais je ne les ai pas personnellement vus.
Comment se passe votre cérémonie? Que faites-vous durant la cérémonie?
Nous prions simplement sans autre chose, tellement que le malade était à l'agonie. On l'avait étalé sur une natte. Aucun de nous ne l'a touché de sa main.
Que ferez-vous maintenant? Allez-vous vous faire vacciner puisque vous êtes des personnes contact?
Nous avons reçu des conseils des médecins. Dès que nous avons un cas pareil, nous devons les appeler. Nous avons leur numéro de téléphone. Ceux qui sont venus nous ont promis de faire le dépistage et de nous soumettre aux soins, mais ils ne sont plus revenus.
L'apôtre Élisène Thomas du groupe de Renouveau à Mbandaka en RDC.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Burundi, la coalition d'opposition qui a fait campagne pour le non lors du référendum du 17 mai sur la révision de la Constitution a déposé un recours pour faire annuler les résultats. La Cour constitutionnelle doit maintenant trancher. Abdourahmane Dia.
Avant même l'annonce des résultats, l'ancien chef rebelle Hutu, Agathon Rwasa, et sa coalition avaient rejeté d'avance l'issue de la consultation. Selon l'opposition, le scrutin était inéquitable et marqué par les intimidations du régime. Et hier, Pierre-Célestin Dikoumana, le président du groupe parlementaire Amizero, a annoncé à la presse avoir déposé une plainte pour demander que les résultats du référendum soient annulés. Amizero avait également dénoncé, peu après le référendum, des cas de bourrage d'urnes et des procès-verbaux trafiqués. Les Burundais ont largement approuvé une réforme de la Constitution qui laisse la possibilité au président Pierre Nkurunziza de briguer à partir de 2020 deux mandats de 7 ans. Le Burundi est plongé dans une crise politique depuis l'annonce de sa candidature à un troisième mandat en avril 2015. Depuis, les violences ont fait au moins 1200 morts et plus de 400 000 réfugiés. Hier, Michel Kafando, le nouvel émissaire de l'ONU, a encore appelé à la reprise du dialogue inter-burundais pour sortir de la crise.
Tchad, les magistrats de Doba dans le sud du pays ont décidé de fermer leur tribunal suite à des tirs mardi par des gendarmes sur la voiture d'un avocat, Maître Doumra Manassé, transportant trois de ses clients relaxés par le procureur. C'est ce qu'a déclaré ce vendredi à l'AFP le secrétaire général du syndicat des magistrats du Tchad, Djonga Arafi. Selon Djonga Arafi, ce genre d'incident est récurrent au Tchad. Les forces de l'ordre viennent souvent dans les locaux des tribunaux. Nous sommes en train d'envoyer une équipe d'instruction du ministère de la Justice sur place pour enquêter sur l'incident, a affirmé de son côté le ministre tchadien de la Justice, Djimet Arabi. Lors d'une assemblée générale mercredi, le syndicat des magistrats du Tchad avait exiger la mise en liberté des trois suspects relâchés et que toute la lumière puisse être faite sur cet incident. Soudan, une Soudanaise de 19 ans a été condamnée à mort pour avoir tué son mari. Elle accuse son époux de l'avoir violée et affirme qu'elle n'a voulu que se défendre. La jeune femme a interjeté appel. Marie Benson.
Noura Hussein a été reconnue coupable du meurtre intentionnel de son mari et a été condamnée à mort. Selon elle, l'homme que son père l'avait forcé à marier à l'âge de 16 ans l'a violé plusieurs fois. La sentence a déclenché l'indignation, notamment des Nations Unies et de groupes de défense des droits de l'homme. Les militants ont lancé une campagne intitulée « Justice pour Noura ». Pour Al-Fateh Hussein, l'avocat de la jeune fille, il pourrait se passer des mois avant que la cour d'appel rende sa décision. Selon Ravina Chambasani, la porte-parole du Bureau des droits de l'homme de l'ONU, le viol et les violences qu'a enduré Noura n'ont pas été pris en compte par le tribunal. Au Soudan, la loi autorise le mariage des enfants de plus de 10 ans. La porte-parole de l'ONU a exhorté le Soudan à modifier ses lois pour criminaliser la violence domestique et le viol conjugal.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.